Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop.
Pay the cost to be the boss. Pay the cost to be the boss. I pay the cost to be the boss.
Chers amis, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission de Thérapie Pop, l'émission qui explore avec vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Comme à l'accoutumée, c'est de Gauthier que je suis accompagné pour la thérapie de cette semaine. Salut Gauthier.
Salut Théo et un Gauthier heureux puisque c'est peut-être l'un des albums les plus influents de ma jeunesse.
Ouais, ouais. Et nous sommes deux.
J'avais 15 ans.
Et je devais en avoir un peu plus.
Tu devais en avoir 18, mon cher Théo.
Dans l'émission de ce jour, nous allons aborder un album que j'affectionne particulièrement, que nous affectionnons particulièrement. Tu le sais, Gauthier, je te remercie de l'avoir choisi. C'est pas le disque le plus joyeux de ma discothèque, hein, on va pas se mentir. On est même sur un son plutôt glacial, selon moi, mais diablement efficace. On va partir à New York, au début des années 2000, juste après le 11 septembre. À New York, qu'on imagine plutôt traumatisé, donc. Et quoi de mieux que la musique pour se relever d'une telle épreuve? C'est en tout cas la solution qu'ont choisi les quatre membres d'Interpol, et on peut les en remercier. On va donc aujourd'hui évoquer leur premier album, Turn on the Bright Lights, que l'on pourrait traduire rapidement en « Allumer les lumières les plus vives ». Et c'est probablement ce dont New York avait besoin pour sortir des ténèbres. Mais revenons un petit peu en arrière, Gauthier, à l'origine d'Interpol. Nous sommes en 97 et ils sont quatre.
Oui, ils sont quatre. Paul Banks, Daniel Kessler, Carlos Dengler et Sam Fogarino. Mm-hmm. Un groupe, qui va mettre un certain temps, puisqu'il y aura 5 ans entre la création du groupe et la composition de leur premier album. Ils l'ont préparé longuement, cet album. Et Dieu, comme ils ont bien fait.
Et donc, c'est un groupe qui a mis un petit peu de temps, donc tu le dis, à sortir son album. Mais avant ça, du coup, comment ils font pour se faire connaître?
Comme beaucoup de groupes, c'est des petites répètes dans des minuscules caves du Lower Manhattan, hein, avec une scène locale qui commence un peu à exploser. On sait qu'à cette époque-là, New York va nous livrer notamment les Strokes, etc., les Yeah et tout. Donc c'est le moment où il y a un revival, entre guillemets, rock à New York, et ils en seront les porte-étendards, peut-être même les plus glorieux, puisque... Si...
Ça dépend, avec du recul, on verra.
Meilleur que SDT, je crois.
Et je sais pas, Gauthier.
Attends, The Bright Light.
Je sais pas. Et comme on le disait en introduction, leur son, que certains ont rapproché de celui de Joy Division, bah, il vient pas de nulle part, Gauthier.
We came out of a dark, anxious New York. That tension shaped our sounds. On venait d'un sombre et d'une anxieuse New York. On y reviendra, Théo. Ouais. La tension de la ville donc a aiguisé, entre guillemets, notre son.
Et le chanteur Paul Banks, qui est également l'auteur des paroles, puise son inspiration chez les plus grands, autant français qu'américains.
Oui, chez les plus grands et pas chez les plus festifs, hein, puisqu'on parle de Bukowski, de Céline ou de Hemingway. Bon, et aussi un peu de Flaubert, qui n'est pas toujours très optimiste non plus. Effectivement, beaucoup de textes très introspectifs qui devront en grande partie la signature aussi de ce groupe, qui a une musique très... quasi humaine, émotionnelle, et des textes qui viennent avec « My lyrics come from images, no stories », pour citer notre cher Paul Banks.
Et comme on l'évoquait, donc on sent vraiment cette ambiance presque post-apocalyptique dans laquelle les New-Yorkais sont plongés depuis le 11 septembre.
Et oui, l'album sort en 2002. On vient de connaître le traumatisme du 11 septembre 2001. Un album qui porte l'atmosphère d'un New York qui est profondément endeuillé à cette époque. Et on peut citer le journaliste John Paroles du New York Times qui dira que l'album sonne comme marcher seul dans le Manhattan à 3h du matin.
Quand
la ville, en fait...
est blessée.
Blessée, voilà, ouais. Absolument.
Quand la ville est blessée, mais reste vivante.
Oui. Ouais.
On parlait des influences sur les paroles, Gauthier. Qu'est-ce qu'il en est de la musique?
Alors, plusieurs influences, en fait. On va aller chercher, bien évidemment, dans des groupes avec des sons un peu dark, hein, comme Echo and the Bunnymans ou Joy Division, bien évidemment. Ils ont quand même... peut-être plus que les Strokes à l'époque, notamment, qui vont aussi être dans cet esprit revival. Interpol, quand même, a un son extrêmement particulier, et avec des jeux de guitare que moi, je rapporterais parfois de Television. En fait, une sorte de Television qui serait passée à Manchester, quoi, en gros.
T'as tellement raison.
Et oui, oui.
Mais je sais, Théo.
Théo, je...
Ouais, ouais.
c'est mon métier. Je l'ai tellement poncé cet album.
C'est vrai, on retrouve beaucoup Television. Et t'as une petite citation de Banks dessus.
Oui, qui dira « We weren't copying anyone », on voulait copier, on va dire, personne. « We were trying to sound like the city we lived in », c'est-à-dire nous essayons de sonner comme la ville dans laquelle nous vivions. À titre indicatif, leur carrière va connaître une dégringolade assez magistrale, parce que les deux premiers albums sont extraordinaires, et puis après ça devient nettement plus banal. Peut-être parce que New York se remet de son traumatisme et que la musique de Interpol devient de moins en moins, on va dire, empreinte de cette atmosphère si unique.
Peut-être. S'il y a une caractéristique à retenir du son d'Interpol, qui est pour beaucoup dans la froideur qu'il dégage, c'est sa basse.
Oui.
Et c'est donc son bassiste, Carlos Dengler, que tu vas évoquer désormais, Gauthier.
Oui, parce que bon, il impose un style très mélodique, la basse, comme sur du Joy Division, sur du Echo and the Bunnymen. De toute façon, quand tu veux faire un son assez spectral, assez lourd, assez profond, bien évidemment que la basse va jouer un rôle absolument fondamental. Là où, par exemple, les Strokes vont mettre les guitares en avant, eux vont clairement mettre la basse, et justement des petites guitares qui n'amènent que des petites notes, parfois des espèces de... Voilà. Il travaille ses lignes de basse comme des morceaux à part entière. Il avouera lui-même au magazine Spin: I played bass like someone who wished he was in an opera. Je jouais de la basse comme quelqu'un qui avait l'espoir, entre guillemets, le souhait de jouer dans un opéra. C'est clairement l'une des grandes signatures musicales d'Interpol, ces lignes de basse, comme encore une fois tout ce qu'on peut voir dans la New Wave, etc. Quand tu veux faire un son dark, hein, de toute façon, une basse, ça fonctionne très bien.
On est d'accord. Est-ce que tu vas nous le démontrer dans le morceau qu'on va écouter ?
Alors, l'album est magistral, toutes les chansons sont extraordinaires. Je vous ai volontairement choisi la première. Pourquoi ? Parce que je me souviendrai encore une fois, toujours jeune adolescent, de la pochette noire avec cette espèce de théâtre rouge et des premières notes de cette chanson, Untitled, qui est la toute première de l'album. Alors il y a plein de choses vachement bien, PDA, Obstacle 1, Stella Was a Driver, But She Was London, qui est une chanson extraordinaire.
On the Way.
Mais les premières notes d'Untitled, pensez à un New York effectivement traumatisé par le 11 septembre et écoutez cette chanson, vous allez comprendre le brio qu'a été Interpol.
On va se la laisser en fond parce que c'est toujours aussi bon, même plus de 20 ans plus tard. On parlait de Carlos Dengler, Gauthier, qui quittera d'ailleurs le groupe en 2010, et vu la suite de leur discographie, on peut pas lui donner tort. Il n'est pas le seul à poser sa patte sur le son d'Interpol.
Tu vois, la batterie sèche, la voix grave de Paul Banks, hein, bien évidemment, ces petites lignes de guitare posées très réverbées pour mettre une espèce de profondeur quasi énigmatique, et la lourde basse qui pose toute la mélodie quasiment à elle seule. Ouais. Souvent dans le rock, la mélodie est portée par la guitare lead, entre guillemets, qui plaque les accords. Là, les guitares n'apportent qu'une tessiture, quoi, en gros, ouais. Et c'est la basse qui apporte la mélodie. On crée une anxiété, une sensualité, une sorte de solitude moderne. C'est toute l'idée de cet album, encore une fois, post 11 septembre. Une ville froide, une identité instable, des relations abîmées, des humains choqués. Voilà, c'est vraiment un album qui porte. On avait dit un jour qu'on en ferait peut-être une émission, mais tu sais, c'est on compose un son particulier à Manchester, un son particulier à Détroit, un son particulier à San Francisco. On est bien évidemment, quand on est musicien, habité par le contexte dans lequel on vit.
Electra Lane, petit groupe anglais dont on entend hélas plus parler, qui avait sorti un morceau qui s'appelait Berlin, qui avait fait mais c'était, ça retranscrivait l'ambiance de Berlin, qui était incroyable. On enchaîne, Gauthier, parce qu'on n'est pas en avance. Est-ce que la critique professionnelle pense la même chose de cet album que les amateurs, certes éclairés, que nous sommes
9,5 sur 10 sur Pitchfork, ce qui est une note relativement magistrale. NME le classera dans les 10 meilleurs albums de la décennie. Rolling Stones dira que c'est un album qui redéfinit New York après, donc justement, le 11 septembre, et c'est depuis devenu un pilier absolu du style revival post-punk, et on peut aller plus loin, du style post-punk en général.
Ouais. Et à l'instar de la rivalité Blur-Oasis, certains esprits étriqués ont tenté de voir une rivalité entre Interpol et Strokes, autre groupe phare, donc on le disait, du New York des années 2000. On est d'accord, Gauthier, il en est pas grand-chose. Quand même.
En fait, ils sont pas du tout sur le même son, donc ça n'a strictement aucun sens. La seule chose qu'on peut leur reconnaître, c'est une discographie similaire, deux bons albums et un long crash après. Voilà.
Putain, c'est tellement ça. Ouais. Analyse courte, mais efficace, mais bravo.
C'est mon travail aussi, Théo.
Il y a autre chose qui marque Interpol, Gauthier, c'est leur identité visuelle. Quand on les voit débarquer, on a un peu l'impression de revoir l'affiche de Reservoir Dogs ou les Beatles, tu sais, des premiers jours.
Ou
tous
les
en
Hives. Ou les
ou Hives. Tout à fait.
Et oui, effectivement, ils sont tous en costume sombre. Ça deviendra effectivement une identité visuelle comme des sortes de croque-morts qui t'apportent un peu la mauvaise parole. Effectivement, c'est une identité.
Et je vous le disais tout à l'heure, Carlos Dengler, il a quitté le groupe en 2010 et ce dernier, justement, il a eu un peu de mal à s'en remettre.
Oui, complètement. Et les fans diront: Interpol without Carlos is like Joy Division without Uki, le bassiste de Joy Division de l'époque. Bien évidemment, quand un son est à ce point porté par ces lignes de basse, forcément, ça se casse la gueule. On en avait parlé aussi avec Real Estate, quand ils avaient perdu le deuxième guitariste, alors que tout le son de Real Estate est basé sur un jeu de guitare, forcément, tu es amputé.
Et comme tous les grands albums, Turn on the Bright Lights aura évidemment son lot de suiveurs, Gauthier.
Oui, alors on peut noter, alors certains te diront Bloc Party, Franz Ferdinand, je suis pas tout à fait d'accord. Citons deux autres groupes nettement plus influencés, les Editors, rapide carrière mais intéressante, et The National, bien sûr, habité aussi par le caractère sombre. De toute façon, toute la musique un peu justement revival post-punk, mais très sombre du début des années 2000.
Cold Wave, quasiment.
Portera Interpol au nu, enfin, on peut prêtera allégeance à ce groupe et à cet album plus que tout.
Et comme le laisse penser la pochette de l'album que tu décrivais rapidement tout à l'heure, Interpol n'aime pas forcément la lumière, jusqu'à la mettre de côté lors des sessions d'enregistrement.
Oui, parce que quitte à se mettre dans une ambiance, autant y aller franchement. Effectivement, dans le studio même, on avait l'habitude d'enregistrer dans l'obscurité avec simplement la lumière rouge faible, je suppose, du truc REC, tu sais, dans l'enregistreur. Ouais. Et il disait qu'effectivement, cette espèce de mood nocturnal, quoi, enfin, cette mood de nuit, leur a permis d'apporter aussi beaucoup à leur identité sonore.
Et c'est vraiment leur pochette, du noir et du rouge.
Oui, absolument.
L'émission touche à sa fin, chers auditeurs, vous l'aurez compris, nous vous invitons vivement à vous replonger sur ce premier album d'Interpol qui est vraiment extraordinaire dans son intégralité. Sachez que nous aurons le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle thérapie et nous vous parlerons, ça va être un peu punchy, des Ramones.
Ça va pas être la même ambiance.
Non, je vous rappelle, on reste à New York mais punchy. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute sur le site de Radio Présence, des radios partenaires et également sur toutes les plateformes de podcast. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier.
Salut Théo.
Salut.